Alors oui, l'ironie cocktail dialogique. Cocktail, bon, c'est un petit peu comme ça tombe bien pour l'apéro de tout à l'heure, donc, hein, ok. Parce que quand même, l'ironie, je me suis dit que c'était, comment dire, que c'était peut-être malvenu dans la mesure où à Lyon, plusieurs, au moins deux de mes collègues, Catherine Kerbra et Alain Rabatel, ont travaillé eux aussi sur l'ironie. Donc venir parler de l'ironie ici, c'était un petit peu comme peut-être importer du sable dans le désert. Bon, j'espère que non. J'espère que ma parole ne sera pas désertique absolument, hein, et que voilà, elle correspondra à quelque chose. Non, l'intérêt, c'est que, et c'est dommage que Catherine Kerbrand ne soit pas là, mais apparemment, donc, elle est grippée. Hein, nous avons un point de vue un petit peu différent sur l'ironie. Nous avons eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises, hein, et nous avons un point de vue différent. Alors, je vais parler environ 40-45 minutes jusqu'à donc moins 45-50, et ensuite il y aura des, s'il y a, j'espère. Hein, des questions. Voilà. Donc, s'il y a des choses simplement entre-temps que vous ne comprenez pas, hein, mot à mot, je veux dire, vous levez le doigt et donc je vous réponds. Sinon, donc, il y aura ensuite une petite discussion. Une discussion, non, pas une petite. Alors, j'ai pas fait de PowerPoint cette fois-ci, j'ai préféré faire un exemplier. Donc, vous avez l'exemplier, on va travailler à partir de là. Hein, l'ironie. Alors sur l'ironie, il y a tellement de choses que bon, que je dis dans le résumé, l'ironie avec la métaphore et l'imparfait, je crois que ça fait partie des éléments qui sont les plus travaillés, au moins en linguistique française, mais même, alors pas l'imparfait, mais au-delà, donc sur la métaphore, il y a également les énoncés d'oxy, les énoncés, alors les proverbes, comme on appelle cela, où là aussi il y a beaucoup beaucoup de travaux. Donc l'ironie, bon, se risquer dans l'ironie. Alors moi je me suis risqué dans l'ironie, je dirais, latéralement, par un biais, pas du tout par la rhétorique, parce que je ne travaille pas du tout en rhétorique, même si ça m'intéresse en soi, mais par la notion de dialogisme. Alors, à Montpellier, nous parlons de dialogisme, comme d'autres d'ailleurs, en gros, ça correspond à polyphonie, parce qu'ici vous parlez de polyphonie, je dirais que en gros, c'est la même chose, même si c'est différent. Hein? Donc, éventuellement, vous me poserez la question après. Mais donc, c'est par le biais du dialogisme que je suis venu à m'intéresser à l'ironie. C'est parce que donc, nous l'avons travaillé comme un marqueur dialogique. Donc, c'est dans ce cadre-là. Voilà. Alors, sur l'ironie, il y a tellement de choses. D'abord, je ne parlerai que de l'ironie verbale. Et on peut distinguer après changes, je ne sais pas comment on prononce. Quatre domaines de l'ironie socratique, l'ironie de situation, l'ironie verbale et l'ironie romantique. En linguiste, donc, je ne travaillerai que sur l'ironie verbale. Et même déjà sur l'ironie verbale, il y a des tas de choses, des tas de théorisations. Donc, on peut distinguer, enfin, moi, je distingue trois grandes approches de l'ironie. L'ironie rhétorique, hein, l'approche rhétorique plutôt, donc, hein, l'ironie comme trope, comme figure. Qui est notamment travaillé dans ce sens par Rice et puis par Catherine Kerbat-Recchioni. Hein, donc, l'approche pragmatique se développe dans les cadres, me semble-t-il, de l'approche rhétorique. Une deuxième grande approche, c'est l'approche argumentative de l'ironie. Donc, vous avez ici les travaux d'Amossi et de Eggs notamment, également en partie ceux de Behrendorf. Et puis, un troisième ensemble, donc l'approche énonciative. Qui a été, je pense, lancé, me semble-t-il, par les travaux de Sperber et Wilson sur l'ironie comme mention, comme écho. Et à la suite de cela, donc, il y a eu un ensemble de travaux qui sont situés dans ce cadre-là, tout en le changeant un petit peu, en discutant, etc. Donc, je distingue, moi, l'ironie également dans ce cadre énonciatif comme pretense, hein, ou comme double jeu, comme polyphonie, c'est le cas donc du Cro 84. Également de Laurent Perrin, hein, qui a travaillé dans ce cadre-là. L'ironie comme surénonciation, c'est l'approche donc de Rabatel. Et moi-même, donc, je vais me situer dans ce cadre énonciatif, l'ironie comme cocktail dialogique. Bien. Alors, deuxième point, l'ironie, bien souvent, a été définie par l'approche rhétorique à partir de la notion d'antiphrase. La notion, donc, bon. Fontanier, l'ironie consiste à dire par une raillerie ou plaisante ou sérieuse, le contraire de ce qu'on pense ou de ce qu'on veut faire penser. Et donc j'ai repris l'exemple que donne Fontanier, un exemple de Boileau. Je le déclare donc, Quinault est un Virgile, Pradon comme un soleil en nos ans apparu. Bien sûr que Quinault et Pradon ne sont ni des soleils poétiques, ni des Virgiles, encore moins des Virgiles. Bon, donc on a là de l'ironie antiphrastique, d'accord, et l'ironie peut être définie par l'antiphrase. Bien. Et Fontanier, dans l'approche classique, on dit que l'ironie a pour fonction de rabaisser par la louange, c'est le cas ici, ou de louer par le blâme. Bon, on verra ceci, si ça marche, etc. Alors, cette première approche, donc, ça marche bien, ça me fait un rendement. J'ai pris l'exemple 2, on va prendre l'exemple 2, interaction familiale. Je prends alors, des exemples un peu partout. Dans les interactions quotidiennes, dans la presse, dans la littérature, etc. Je crois que là, tout est bon pour... voilà. Alors, un premier exemple classique. La mère regarde le cahier de texte de son fils, qui a 13 ans, et déclare que l'enseignante ne leur fait pas faire grand-chose. Le gamin, Frédéric, dont 13 ans, il va travailler dans sa chambre, puis il revient vers sa mère au bout d'une heure, et en lui tendant son classeur, il lui déclare, sans aucune intonation spécifique, j'assistais à la scène de mon bureau, « Tu vois, la prof, elle ne nous fait pas travailler. » Évidemment, le gamin se moque de sa mère, puisque donc là, on a une ironie flagrante d'un gamin de 13 ans, puisque la prof, elle ne nous fait pas travailler, pour entendre bien sûr que c'est d'un point de vue antiphrastique, il lui montre son travail et il lui dit, la prof ne nous fait pas travailler, donc quelque part, il se moque d'elle qui a dit avant que la prof... D'accord, ok. Donc là, je dirais qu'on peut parfaitement décrire des exemples de ce type par la notion d'antiphrase, puisque quand le gamin dit, la prof, elle ne nous fait pas travailler... c'est une figure pour dire que la prof les fait travailler. Bon, on peut l'analyser ici de cette façon. En même temps, de très nombreux exemples d'ironie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des exemples d'ironie, on n'est pas d'accord sur ce point. Mais bon, je ne vais pas développer ce point-là. Disons que de nombreux exemples que, globalement, tous les gens considèrent comme des exemples d'ironie, il n'y a pas d'antiphrase. On ne voit pas d'antiphrase. Alors, j'ai cité deux exemples ici. L'exemple 3 et l'exemple 4. Pardon. L'exemple 3 est tiré de la correspondance entre Voltaire et Rousseau. Ce pauvre Rousseau, il était lourdeau, il était philosophe, mais extrêmement lourdeau. Et Voltaire, qui était beaucoup moins philosophe, mais beaucoup plus chat, exerçait son ironie, notamment contre ce pauvre Rousseau. Et donc, cet exemple clair, la fin d'une lettre, donc la lettre du 30 août 1755, adressée à Rousseau. Monsieur Chapuis m'apprend que votre santé est bien mauvaise, il faudrait la venir rétablir dans l'air natal, jouir de la liberté, boire avec moi le lait de nos vaches et brouter nos herbes. Bon, évidemment, ça fait rire, tout le monde sourit, il se fout de la gueule de ce brave Rousseau. Là, l'antiphrase, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas analyser, enfin, l'antiphrase ne fonctionne pas pour analyser, pour rendre compte de ce type d'occurrence. C'est la même chose pour l'exemple 4. Alors, ici pertinente, puisque l'anecdote a pour cadre, je ne sais pas où j'ai relevé cela, Normal Sup, lors d'un repas de fête, les mets sont excellents, un convive se penche à l'oreille de Senghor, qui à l'époque, donc, vous savez, Senghor, alors c'était à Paris, Senghor était à Normal Sup, et donc un copain se penche à son épaule et lui dit « Yabon miam miam hein ?» Senghor ne répond pas. Les vins sont aussi excellents, et les mêmes convives, à l'oreille de Senghor, toujours « Yabon glou glou hein ?» Senghor ne répond toujours rien. Et puis à la fin du repas, Senghor est appelé à la tribune pour faire un discours, ce qu'il fait fort bien. Il sait parler, Senghor. Et quand il revient s'asseoir, Senghor, donc, il se penche sur l'épaule de son voisin et il lui dit « Il y a bon blabla, hein ?» Là aussi, bon, on peut analyser, bon, j'admire ça comme un bel exemple d'ironie, l'antiphrase, il n'y a pas d'antiphrase. Alors, tout le monde, on a du mal, vous voyez, à analyser. Voilà. Donc il me semble que la notion d'antiphrase pour définir l'ironie ne fonctionne pas, enfin, pas toujours, il y a de très nombreux cas où l'ironie ne marche pas à l'antiphrase. De même que, réciproquement, si j'ose dire, il y a de nombreuses antiphrases qui n'ont rien d'ironique. Alors, c'est l'exemple 5, août 2012, canicule, Pierre, voilà c'est moi, je m'appelle Pierre, je m'appelle pas Pierre, mais bon. Pierre rencontre dans un village pyrénéen une vieille dame qui normalement vit à Montpellier. On est en août, il fait une chaleur caniculaire à Montpellier, alors que dans les Pyrénées, à 1500 mètres, on est bien. Bon. « Bonjour madame, lui dit Pierre, mais qu'est-ce que vous faites dans les montagnes? Il fait si bon en ce moment à Montpellier. » Et la vieille dame rit et dit: ah, ça, vous pouvez le dire, la semaine dernière, sur ma terrasse à Montpellier, 36 degrés à l'ombre à 8 heures, bon, on cuisait à petit feu. Donc, on a là un exemple d'antiphrase. Hein, quand Pierre dit il fait si bon en ce moment à Montpellier, bien sûr que c'est. Pardon. J'ai arrêté l'émission. J'ai jamais compris comment ces trucs marchent. Excusez-moi. J'ai cru l'arrêter. C'est comme l'ironie, c'est mon téléphone portable, on arrive à. Pour moi, j'arrive. Donc, excusez-moi. J'ai cru l'arrêter, j'ai arrêté, puis bon. Ouf. Donc là, on a un exemple d'antiphrase et il n'y a pas d'ironie. Hein. J'aurais dû commencer à dire qu'on pouvait définir l'ironie comme un acte de langage de moquerie. Mais de la moquerie, là, il n'y a aucune moquerie, je me moque de personne. Pierre se moque de personne, il la bonne. Très bien. Donc, l'antiphrase, si vous voulez, me semble ne pas être vraiment un bon élément hein, pour définir l'ironie, dans la mesure où on a des ironies sans antiphrase et des antiphrases sans ironie. Alors, je passe à l'hypothèse qui est la mienne, donc c'est l'ironie comme cocktail dialogique. Alors, il me faut commencer par définir ce que c'est qu'un énoncé dialogique. On peut définir rapidement, sans entrer dans trop de précision, l'énoncé dialogique comme un énoncé qui résulte de l'interaction entre deux actes d'énonciation. Un acte d'énonciation grand E avec un autre acte d'énonciation petit e. Bon, représentation, pris un exemple un peu énorme, hein, l'exemple 6, l'exemple d'énoncé dialogique, Ukraine, les opposants ne sont pas des extrémistes. Hein, et on va définir une négation, tout le monde a travaillé sur cela, hein, on peut parler de polyphonie aussi bien sûr, que cet énoncé, donc on dirait qu'il est dialogique dans la mesure où la négation s'oppose à un énoncé hein, dans lequel un discours antérieur, hein, selon lequel les opposants hein, étaient des extrémistes. Donc voilà, on a là typiquement un énoncé dialogique. Pas du tout ironique, simplement c'était pour... Alors, je vais donc essayer de traiter l'énoncé ironique comme un énoncé dialogique. Un type d'énoncé dialogique spécifique, hein, puisqu'il fait partie d'un vaste ensemble, qu'on est en train d'ailleurs de travailler avec certains collègues de Montpellier pour fournir, je vais faire une petite pub, on est en train d'écrire une petite grammaire du dialogisme. Donc on essaie de décrire tous les marqueurs, de proposer une description rapide des différents marqueurs dialogiques. Bon. Donc l'ironie ferait partie de cela, et on va l'analyser donc comme un fait dialogique, et ce fait dialogique, je vais l'analyser à partir comme composé de trois ingrédients, comme dans une recette de cuisine, trois ingrédients, interaction implicite, discordance contextuelle et jeu énonciatif. Donc, l'hypothèse, c'est que l'ironie est un marqueur dialogique, un petit peu spécifique comme chacun, mais sa spécificité, il la tient, et peut-être la difficulté de saisir l'ironie procède de ce qu'on aurait trois ingrédients, des ingrédients que l'on trouve ailleurs, qui serait là assemblé, donc d'où l'image du cocktail. Alors je vais prendre chacun de ces trois ingrédients à travers des exemples hein, pour vous montrer que ces ingrédients, chacun d'eux fait partie de l'ironie, mais qu'on les trouve dans d'autres tours dialogiques ou d'autres types d'énoncés, et que donc hein, on ne peut pas définir l'ironie par l'un de ces trois, mais par l'assemblage des trois. Bon. Alors le premier de ces ingrédients, c'est l'implicite de l'interaction dialogique. Donc, l'hypothèse, c'est que dans l'énoncé ironique hein, est un énoncé dialogique, à savoir qu'il est le résultat de l'interaction avec un autre discours. Simplement, cette interaction, elle est implicite. Celui, l'ironisateur, on peut dire ça, oui, l'ironiste, hein, ne dit pas qu'il interagit avec un autre discours. Alors, si on prend l'exemple du gamin, l'exemple 2, donc, hein, qui dit à sa mère, tu vois, la prof, elle ne fait pas travailler. On voit bien l'interaction dialogique, semble-t-il, à savoir que là, le discours du gamin interagit avec le discours de la mère. Il y a donc une interaction avec ce discours-là, c'est ce discours-là, pour l'instant je ne dis pas quel type d'interaction, simplement je dis que le discours du gamin est en interaction avec le discours antérieur de la mère qui avait dit quelque chose, comme même, que la prof leur faisait pas faire grand-chose. Bon, c'est quelque chose qui a été pris au vol, hein, donc enfin, ça c'est sûr. Voilà. Donc une interaction implicite, à savoir que si le gamin avait dit tu m'as dit que la prof ne faisait pas travailler hein, ça marche pas plutôt si le gamin avait dit tu vois tu m'avais dit que la prof elle ne faisait pas travailler, à savoir s'il avait explicité l'interaction avec le discours de la mère, il n'y a plus d'ironie, il y a simplement que le gamin s'oppose à ce que, bon, très bien, il n'y a plus d'ironie. Donc L'interaction implicite, interaction dialogique, hein, pour l'ironie, mais pas mais et implicite, il faut qu'il y ait de l'implicite, sinon il n'y a pas, il n'y a pas d'ironie. Alors, quand je développais cela, je suis tombé sur un exemple, un bel exemple de cette, un bel exemple issu de Proust, hein, où donc, alors c'est l'interaction entre ce brave Swann et puis Odette qui lui échappe, comme l'ironie nous échappe à tous. Hein, donc voilà. Alors Swann, voilà, il est embêté. Tu te souviens de l'idée que j'avais eue à propos de toi et de Madame Verdurin? Dis-moi si c'était vrai avec elle ou avec une autre. Bon, donc. Je te l'ai dit, tu le sais bien, ajouta-t-elle d'un air irrité et malheureux. Oui, je sais, mais Annie, tu es sûre? Ne me dis pas, tu le sais bien, dis-moi. Je n'ai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme. Elle répéta, comme une leçon, sur un ton ironique, c'est pour ça que j'ai relevé, Proust, donc le signal qu'il y a de l'ironie, et comme si elle voulait se débarrasser de lui, je n'ai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme. Là, bon. Et l'interaction, elle paraît explicite. Sauf que, on voit bien, bien sûr, c'est une fiction, donc, hein, mais que comment elle s'appelle la petite Odette, en répétant, elle ne lui dit pas, je répète ce que tu m'as dit. C'est le narrateur qui nous invite à comprendre que, etc. Mais l'auteur donc, de l'acte ironique, ici Odette, hein, en répétant, elle répète ce qu'il a demandé Swann, mais elle ne lui dit pas, je répète ce que tu as dit. Donc je crois que même sur un exemple comme cela, on peut l'idée donc de l'ingrédient, donc l'ingrédient de l'implicite de l'interaction, ça marche assez bien, puisque même dans un exemple comme celui-ci, qui est au plus proche, hein, du discours rapporté, ben non, il n'y a pas de discours rapporté parce que celui qui rapporte ne dit pas qu'il rapporte, ou ne dit pas qu'il interagit. Ce rapporté, c'est bien sûr. Bon. Alors, on aurait là, si vous voulez, un ingrédient, hein, sauf que cet ingrédient, il n'est pas caractéristique ou spécifique de l'ironie. On l'a notamment alors dans de nombreux tours, notamment tours dialogiques, notamment dans les ce qu'on appelle les détournements. D'ailleurs, c'est le terme de la rhétorique, détournement. Un énoncé comme 8, Cuba 50 ans de solitude, on peut ne pas voir aucun détournement. Si vous êtes comme moi amoureux de García Márquez, hein, et donc vous pouvez entendre dans 50 ans de solitude le détournement, dans l'interaction implicite avec 100 ans de solitude, hein, le roman, un des romans de García Márquez. Donc, vous voyez, là aussi, le détournement, lui, joue sur l'implicite de l'interaction dialogique, hein, et pourtant, il n'y a aucune ironie. Autre exemple que j'aime tellement, les blagues. À la Comédie française, Petit Matin Blême, c'est neuf, un chat rencontre un autre chat, qui a l'air triste à pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive que tu es tout triste? L'autre chat lui dit, tu connais pas la nouvelle? Non, laquelle? La petite Agnès est morte. Bon, d'accord. Donc, vous souriez, il n'y a pas d'ironie. Hein, on est dans un détournement, c'est une blague, etc. Mais il n'y a pas d'ironie, c'est une blague, bien sûr. Mais la blague, ici, le principe de la blague, fonctionne sur le détournement de le petit chat est mort. Hein, mais pas sur, il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de moquerie, de rien du tout. Hein, c'est une blague gentille et sympathique, etc. Bien. Donc, l'implicite, l'interaction dialogique et l'implicite de l'interaction dialogique n'est pas spécifique de l'ironie. Même si c'est un des ingrédients de l'ironie. Deuxième élément de mon cocktail, la discordance contextuelle. Alors, discordance, on peut dire contradiction, enfin, je n'ai pas trouvé le terme, je ne sais pas de quoi, peu importe. Discordance contextuelle. Alors, si on prend, contexte, hein, les deux. Le contexte, ce qu'il y a autour, à droite, à gauche, et le contexte, c'est la situation, pour aller vite. Si on revient sur l'exemple 2 du gamin qui dit à sa mère, tu vois, la prof, elle ne fait pas travailler, hein, il y a une contradiction flagrante entre son dire et puis le fait qu'il lui présente le travail qu'il vient de faire. Là, il y a une contradiction contextuelle forte, et l'ironie vient de là, entre autres. Bon. La contradiction peut être contextuelle, c'est l'exemple 10. L'exemple 10, qui est d'ailleurs cité par Ducrot, Racine Britannicus, et ce même Néron que la vertu conduit fait enlever Junie au milieu de la nuit. Bon. Que la vertu conduit, hein, il y a une contradiction contextuelle entre quelqu'un qui serait donc vertueux, qui serait même que la vertu conduirait, et puis qui ferait enlever Junie, au milieu de la nuit. Donc contradiction contextuelle, donc ça marche assez bien. Hein, donc là, on a un exemple d'ironie, hein, un bel exemple d'ironie, à travers donc cette contradiction contextuelle. Vous voyez qu'ici, d'ailleurs, hein, alors je ne sais plus qui c'est qui parle maintenant là, c'est qui maintenant, mais bon, peu importe. En tout cas, l'interaction, parce que plus haut, il y a, alors c'est la Servante, je crois, qui a dit, maintenant le nom m'échappe, qui a dit que Néron était extrêmement vertueux. Donc là, on a bien une interaction hein, implicite, elle ne dit pas, etc., et une discordance. Là aussi, ce deuxième élément, cette discordance contextuelle ou contextuelle, on l'a dans d'autres types d'énoncés. Notamment des énoncés dialogiques du type « la fille aux yeux bleus a les yeux verts ». Alors les linguistes, les philosophes ont raisonné comment ça se faisait, que cet énoncé n'était pas absurde, etc. Ah, il y a une double énonciation, hein, « la fille aux yeux bleus », il y a celui qui a dit que la fille avait les yeux bleus, et puis l'autre qui dit « ben non, elle a les yeux verts ». Donc la contradiction en soi ne provoque pas, n'est pas un élément spécifique de l'ironie, même si on retrouve donc l'ironie. Contradiction aussi dans d'autres genres comme le mensonge. Je pensais au mensonge de Brice Hortefeux, pris en flagrant délit de propos racistes, hein, lorsqu'il avait dit, vous savez, comment c'était ce truc, c'était lorsqu'il y en a un, c'est bien, mais lorsqu'il y en a plusieurs, bonjour les dégâts, etc. Et puis il avait dit que, mais non, c'était pas, si je parlais pas des Arabes, je parlais des Auvergnats, parce que je suis Auvergnat, et donc quand il y en a un comme moi, ça va, mais quand il y en a plusieurs. Sauf que, bon, si certains, moi je suis allé voir un petit peu, hein, on voit bien que très précisément, il parle des Arabes, en disant cela. Ce qu'il visait, ce sont les Arabes. Donc là, contradiction, le mensonge également. Contradiction entre le dire de Hortefeux et puis la réalité contextuelle. Donc, la discordance contextuelle hein, n'est pas non plus spécifique de l'ironie, même si c'est un des ingrédients qui contribue. Il faut qu'il y ait une discordance, sinon on ne comprend pas l'ironie. Bien. Troisième ingrédient, c'est le jeu énonciatif. Là aussi, tout le monde, tous les gens qui travaillent sur l'ironie, on dit que celui qui, l'ironiste, il ne dit pas cela au sérieux, hein, pour le dire en termes, je dirais, un petit peu énormes, hein, où il fait entendre autre chose que ce qu'il dit, il parle par figure, enfin, on peut l'analyser de différentes façons. D'un point de vue, je dirais, énonciatif ou dialogiste, on dira que dans un énoncé ironique, effectivement, le locuteur n'est pas sérieux, à savoir qu'il laisse entendre, alors pour parler comme Bakhtine, une autre voix sous sa voix. Lorsque le gamin, pour revenir à deux, dit « tu vois, la prof, elle ne nous fait pas travailler », sous la voix du gamin, il y a la voix de la mère. Et le gamin, il joue cela. Hein. Il y a un jeu énonciatif entre sa parole, il feint d'endosser cette parole, mais il feint. Hein, c'est la feintise, bon, etc. Donc, ce dédoublement, on peut parler de dédoublement ou de jeu énonciatif, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait, c'est un ingrédient donc de l'ironie. Cet ingrédient, d'ailleurs, encore faut-il que ce jeu énonciatif, il faut que celui qui reçoit l'ironie, ou celui qui lit, qu'il soit à même d'interpréter ce jeu. S'il ne l'interprète pas, il n'y a plus d'ironie. Alors c'est arrivé, c'est l'exemple 11, c'est arrivé à Guy Bedos, qui raconte que pendant un certain temps, quand il faisait des sketchs avec Sophie Daumier, ils avaient un sketch qui était magnifique, « Vacances à Marrakech », que j'ai eu l'occasion, dans ma folle jeunesse, d'interpréter avec une copine, un soir de Beuverie. Beuverie, non, des cocktails, etc. Et donc, vous connaissez peut-être ce sketch qui commence comme ça, « Marrakech, ça ne nous a pas plu. Non, ça nous a déçu. Des Arabes, rien que les Arabes. Même le roi est arabe, bon, etc. » Et donc, vraiment, c'est ironique. Hein, c'est ironique, et les acteurs qui jouent cela, et surtout Bedos et puis Daumier, ils étaient en jeu énonciatif avec cela. Sauf que ils ont dû arrêter ce sketch parce que, à plusieurs reprises, à la fin de leur sketch, ou même pendant, il y avait des gens qui sifflaient parce que certains voyaient là des propos racistes. Et au contraire, à la fin, Bedos dit avec son humour, quelque chose comme eux, à la fin du spectacle, certains Français, franchouillards, etc., putain, qu'est-ce que vous leur avez mis sur les Arabes? Ouais, c'est bon, etc. Donc, ils ont dû enlever ce sketch. Et alors, j'ai retrouvé, ce sketch a été rejoué à TF1. Non, je ne sais plus quand l'année, donc 75, et il a été précédé d'une préface, où il y avait donc, alors c'est le 11 prime, c'est ça, voilà, c'était la chanteuse Dani, déguisée en hôtesse de l'air, qui disait « Les passagers du vol Air France numéro 320 à destination de Marrakech sont informés et ceci afin d'éviter désormais tout malentendu que le texte qui va leur être présenté maintenant est d'inspiration antiraciste. » Voilà, vous voyez, le lourd décodage, bon, etc. Hein, parce que pour faire que le jeu énonciatif... Oui, parce que ça nous arrive parfois, hein, que le jeu énonciatif, on se demande, moi, bon... Tu connais Jean-Marc Sarral, donc, hein. Nous échangeons des fois des mails, et des fois je me demande si c'est un copain, donc hein, si, s'il plaisante ou pas, hein, s'il le dit pour moi. On sait que l'émoticône, il y a un petit émoticône, le clin d'œil, enfin, moi je maîtrisais pas ce genre de choses, hein, pour dire attention, hein, il y a du jeu énonciatif. Donc si ce jeu énonciatif, bah, vous savez peut-être, vous avez entendu dire qu'au 19e siècle, on a même pensé créer, inventer un point d'ironie. Après, ça n'a pas marché. Mais donc, pour signaler le double jeu, le jeu énonciatif, bon, ça n'a pas pris. Là aussi, le jeu énonciatif, oui, il faut du jeu énonciatif, sinon il n'y a pas d'ironie. Et il faut bien sûr décoder le jeu énonciatif pour percevoir l'ironie. Mais le jeu énonciatif n'est pas non plus spécifique de l'ironie. On le trouve dans d'autres marqueurs dialogiques, comme les énoncés hypocoristiques. Une vieille dame à son chien, c'était ma voisine. Il avait envie de faire un gros pipi, mon chien, oui, oui, on allait le sortir, allez, viens, mon Mickey, viens, etc. Donc là, on a ce qu'on appelle l'énoncé hypocoristique. Dans l'énoncé hypocoristique, la vieille dame qui parle, elle fait entendre la voix de son chien. Hein, elle parle à la place de la voix du chien. Bon, l'énoncé hypocoristique, on l'a aussi pour s'adresser aux enfants, etc. Bien. Okay. Ou dans le, parfois, paraît-il, dans les relations amoureuses, ça. Bon, donc voilà, on aurait, hein, si vous voulez, ce serait là, les trois ingrédients de ce cocktail, dont aucun n'est spécifique de l'ironie, puisqu'on le trouve dans d'autres marqueurs dialogiques, et qui sont absolument nécessaires. Alors, j'ai rapidement mis en relation ces trois, hein, pour que, donc les trois ingrédients du cocktail, hein, pour que, alors, E1, c'est l'énonciateur principal, le locuteur, puisse faire semblant de prendre l'énoncé ironique à son compte, il faut qu'il ne mentionne pas l'énonciation antérieure. Effectivement, s'il dit, tu vois, maman, tu m'as dit que, c'est fini. Bon, donc implicite. Pour que le jeu énonciatif soit perceptible, il faut que le dit énoncé construise une discordance contextuelle. Il faut qu'il y ait une discordance. Hein, qu'entre le gamin qui dit, tu vois, la prof, elle ne nous fait rien faire, il lui montre en même temps son travail. Sinon, il n'y a plus d'ironie. S'il lui avait dit, bah ouais, la prof ne nous fait rien faire sans aller travailler, ni rien, il n'y a plus d'ironie. Et donc, pour que l'énoncé ironique fonctionne comme une moquerie, il faut que sa disconvenance puisse être mise au compte d'un autre énonciateur, d'où l'énoncé dialogique, quoi, polyphonie, ce qui présuppose une interaction antérieure. Vous voyez donc, les trois éléments, les trois ingrédients me semblent absolument nécessaires et interreliés, enfin on peut les relier de la sorte. Voilà. Alors, des choses de plus, je vais passer rapidement, hein, sur la cible de l'ironie. Donc, hein, alors, l'idée c'est que l'ironie est une moquerie, oui, mais moquerie d'un discours. Moquerie d'un discours, alors c'est sur ce point qu'on n'est pas d'accord avec Catherine Carbra, je vais revenir peut-être à la fin, moi je ne le sens pas là. Hein, donc, on va l'analyser, hein, comme moquerie d'un discours. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir, j'en ai appris un petit peu. Alors, ça peut être moquerie du discours de l'autre. Bien souvent, l'ironie, enfin ça peut être, hein, de l'ironie à l'interaction, et donc, par exemple, le gamin en deux se moque du discours de la mère. Donc là, on a quelque chose qui est, ou la cible de l'ironie, celui qui est ironisé. Ce qui est ironisé, c'est le discours de la mère. Et bien sûr, au-delà, la mère, qui, si elle tient un discours qui n'est pas valable, c'est que, donc, on se moque d'elle. Mais d'abord, ça passe par le discours de l'autre. Donc, ça peut être le discours de l'autre dans l'interaction. Bien. Ça peut être un tiers. Ça peut être un tiers. Alors, j'ai donné, là, ici, un exemple. C'est l'exemple 13. Hein. C'est un exemple de Jean-Marie Le Pen. Lorsque le président Bouteflika était venu se faire soigner ici, enfin ici, en France, Jean-Marie Le Pen avait déclaré, donc c'était le 20 avril, mais c'est 2006. Je ne comprends pas très bien, je ne sais pas refaire hélas, je ne comprends pas très bien que ce monsieur vienne se faire soigner chez les abominables colonialistes que nous sommes. Évidemment, abominables colonialistes, on entend la voix de Bouteflika qui précisément quelques jours avant, un mois avant, avait tenu un discours en Algérie qui était vraiment où on était toujours, c'était toujours la France colonialiste. Donc là, la cible du discours, hein, c'est le discours de Bouteflika, donc un tiers, hein, puisque Le Pen ne parle pas, etc. On peut faire aussi, il y a également de l'auto-ironie. On peut se moquer de son propre discours. Alors c'est plus rare. C'est plus rare, c'est pas évident. Je me suis mis en scène, et excusez-moi, 14, c'est l'exemple 14, en février 2013. Donc, Pierre s'est fait une entorse. Le samedi matin, il appelle son ami Antoine, avec qui il va faire du vélo régulièrement le samedi après-midi, et donc il lui demande régulièrement bon, à quelle heure on se retrouve, etc. Bon, ce jour-là, il appelle pour autre chose, puisqu'il a une entorse, il ne peut pas aller faire du vélo, hein, et il appelle pour l'inviter à venir voir un match de rugby à la télé. Et quand il appelle, donc au moment où il appelle, lui vient à l'esprit cet énoncé. Bon, Antoine, on part à quelle heure? On part à quelle heure, évidemment. Celui qui dit cela, donc Pierre, moi-même, je me moque de mon propre discours. Je me moque de l'accro, tout ce que vous voulez, au vélo, qui le samedi matin appelle son copain pour rituellement lui demander on part à quelle heure. Évidemment, ce discours, il est absurde, puisque là, il y a eu une disconvenance. Vu l'entorse, il n'y aura pas de vélo cet après-midi-là. Donc, on est dans l'auto-ironie, hein, mais là aussi, ça passe par la moquerie de son propre discours. Alors, le plus bel exemple, j'aurais peut-être pu commencer par celui-là, c'est l'exemple 15. L'exemple 15, il est délicieux, je l'adore. Et lorsque je l'ai trouvé, donc 2011, place de la préfecture à Montpellier, un SDF a fait la manche avec placé devant lui l'écriteau suivant. Pour l'alcool, la drague, pardon. J'ai anticipé, excusez-moi. Pour l'alcool, la drogue, les filles de joie, merci. Alors, je relevais, hein, là, j'ai donné dans la pièce, là, vraiment, j'ai arrosé. Hein, voilà. C'est un bel énoncé, hein, c'est magnifique. Comme ça. Il me semble que là, on voit bien hein, comment fonctionne tout un type d'ironie, hein, me dirait Catherine Carbat, dialogique, à savoir que l'écriteau pour l'alcool, la drogue, les filles de joie, hein, il est. Alors, si on prend les trois niveaux rapidement, hein, on voit bien que ici, plutôt ce qui est moqué, il y a la moquerie. Il y a de l'ironie, ce qui est moqué, c'est le discours de ceux qui, devant les gens qui font la manche, disent, ben non, on ne va pas leur donner, hein, vous avez tous entendu ce genre de propos, on ne leur donne pas parce qu'après, quand on leur donne, ensuite ils vont de suite s'acheter de l'alcool, ou ils vont fumer de la drogue, ou ils vont voir les prostituées. Alors ce qui m'intéresse, donc, je dirais qu'ici, l'ironiste, hein, le gars qui fait la manche, il ironise le discours des passants honnêtes, pour parler comme Brassens, hein, les passants honnêtes, d'accord? Il ironise ce discours-là. Et il me semble que la trace ici, la plus belle trace, parce qu'on peut toujours dire, oui, on dit, ouais, mais où tu vois cet autre discours, etc., c'est les filles de joie. Les filles de joie, c'est un terme que, je ne sais pas, moi je l'avais lu sûrement fin 19e, début 20e, je n'ai pas eu le temps d'aller faire des recherches, mais c'est vraiment un terme qui est complètement dépassé. Et là, je crois que ça pointe, hein, sociolectalement, ça pointe vraiment sur le discours des bourgeois montpelliérains, etc. Bon, il paraît que ce n'est pas spécifique à Montpellier, parce qu'une fois j'en parlais, je crois que c'était Kléber qui m'avait dit, ah oui, mais à Strasbourg, j'ai relevé aussi la même chose. Donc apparemment, il y a également un Internet des SDF qui se pique le type d'écriture. Mais voilà, là, je crois que c'est un bel exemple aussi d'énoncé ironique. Alors, dernier point, ça va, c'est bon. Dernier point, c'est. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu, c'était des exemples d'ironie négative. Pour aller vite, on parlera d'ironie négative, à savoir d'ironie qui se moquait de l'autre, hein, qui rabaissait l'autre. Hein. Alain Rabatel parle de surénonciation. Okay. Donc, hein, l'ironie a pour fonction, quand Voltaire s'adresse à Rousseau, là aussi, chaque fois, dans tous les exemples, depuis l'exemple 2 du gamin, il se moquait de sa mère, etc., il s'agit de rabaisser le discours de l'autre, se moquer du discours de l'autre pour rabaisser l'autre. Et. Alors, dans la tradition rhétorique, depuis Quintilien, on dit que, c'était, je l'ai noté quelque part, la page 1, voilà, oui, au bas de la page 1, hein, vous avez le fonctionnement antiphrasique de l'ironie aurait pour fonction de rabaisser par la louange, c'est le cas, hein, ou de louer par le blâme. D'abord, rabaisser par la louange. Rabaisser, oui, mais par la louange, vous verrez que la plupart des occurrences, mis à part celle de Boileau, etc., Virgile est un, enfin, Quinault est un Boileau, la plupart, il y a bien le rabaissement, mais il n'y a pas de louange. Donc, vous voyez, définir comme ça la rhétorique classique, là, quand même, il me semble que ça ne correspond pas. Mais, donc, louer par le blâme, ce qu'on appelle l'ironie positive. Est-ce qu'il y aurait des exemples d'ironie positive? C'est-à-dire des exemples où on dirait, où il y aurait le jeu énonciatif, enfin les trois marqueurs, les trois ingrédients que j'ai essayé de dégager, mais qui, au lieu de rabaisser, aurait pour fonction d'élever, ce que nous dit la rhétorique classique. Ce qu'on appelle parfois l'astéisme, s'il y en a parmi vous qui sont des passionnés de rhétorique, hein, cette figure-là, on l'appelle l'astéisme. Alors, si on prend l'énoncé en tant que moquerie antifrastique, ça ne marche pas. Et alors, moi, j'ai quelques occurrences, comme l'occurrence 16, qui sont curieuses, qui sont très curieuses, et qui me semblent que l'on peut rapprocher, ou peut-être, de l'ironie positive. À savoir qu'ils n'ont pas pour fonction, encore à voir, qu'ils n'auraient pas pour fonction de se moquer de quelqu'un, encore que. Alors, l'exemple 16, conversation amoureuse. Une fort belle femme chausse parfois ses noires lunettes masochistes et se prétend affreuse laide. « Je ne sais pas comment tu peux t'intéresser à moi, » dit-elle. Un jour qu'elle est particulièrement en beauté, qu'elle se regarde au miroir, il lui dit « Tu sais, tu es très très laide aujourd'hui, je ne sais pas comment tu peux t'intéresser à toi. » Réponse « C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. » Un hic là, un hic. Comment analyser ce genre de choses? D'abord, est-ce que c'est de l'ironie? Moi je le prends pour une ironie. L'énoncé en gras. Alors, si on le prend pour un énoncé ironique, comment se fait-il que la réponse soit « c'est le plus beau compliment », savoir que la personne, en principe, quand vous êtes la cible de l'ironie, vous appréciez pas ou vous retournez l'ironie, enfin, etc., mais vous dites pas « c'est le plus beau compliment ». Alors, ça aurait pu être un énoncé ironique, l'énoncé de la fille, non, c'est pas du tout ironique, hein, c'était parfaitement, elle a pris ça pour un compliment. Est-ce qu'elle n'a pas compris? Ben si, elle a compris. Si on analyse un petit peu ce genre d'énoncé. Tu sais, tu es très très laide aujourd'hui, je ne sais pas comment tu peux t'intéresser à toi. Alors, premier ingrédient, cet énoncé, il est bien dialogique, à savoir qu'il y a interaction avec le discours antérieur de la jeune femme qui parfois se dit qu'elle n'est pas belle et comment, je ne sais pas comment tu peux t'intéresser à moi. Donc là, il y a bien une interaction avec un discours antérieur. Interaction implicite. Le gars, il ne dit pas, il n'y a rien du tout, etc. Bon, donc l'interaction implicite, elle est. Qu'est-ce que c'était le deuxièmement? C'est la discordance contextuelle. Bon, ce jour-là, elle est très particulièrement belle, etc. Donc, ça ne peut pas être très très laide aujourd'hui. Et en plus, en principe, donc, on évite de dire à l'être aimé qu'elle est très laide, ou qu'il est très laid, ça ne marche pas, etc. Donc, sauf antiphrastiquement, c'est le cas ici. Donc, bien. Troisième élément, bien sûr, c'est le jeu énonciatif marche bien. Celui qui dit cela, il dit cela, mais en même temps, il laisse entendre l'autre voix, comme dirait Bakhtine, la propre voix, la voix de la femme à qui il s'adresse, dont il reprend le discours, le type de discours. Donc, on a bien ici un énoncé ironique. Et donc, si on prend l'énoncé ironique comme moquerie d'un discours, on peut dire que là, on est bien dans un énoncé ironique qui se moque du discours de la jeune femme. Donc, comment se fait-il qu'elle le prend bien, qu'elle prend ça pour un compliment, effectivement? Et c'est là qu'on est dans le type d'ironie positive, à savoir que sous l'ironie donc, d'un discours, donc sous la critique d'un discours, à travers la critique d'un discours, il y a, au-delà de cette critique, il y a la valorisation de la personne à qui on s'adresse. Tu es belle. Le antiphrastiquement ici, tu es très laide, signifie tu es très belle. Et donc, la personne qui reçoit cela, elle passe facilement, comment dire, elle ne prend pas négativement la critique de son propre discours, puisque au-delà de son discours, il y a les fleurs qui lui sont envoyées sur le fait qu'elle est belle. Donc on peut analyser cela comme une forme d'ironie positive. Alors, ce qui est intéressant pour ma théorie dialogique, c'est que finalement, ça ne s'éloigne pas de l'idée que l'ironie serait un énoncé dialogique qui se moquerait d'un discours antérieur. Puisque là, effectivement, même dans l'ironie positive, il y a bien moquerie d'un discours antérieur, même si cet acte de langage, il passe derrière, en quelque sorte, et il est écrasé par ce qui est de l'ordre du compliment. Bon, voilà. Donc, on peut analyser l'ironie dans ce cadre-là, si vous voulez, dans ce cadre d'un cocktail, vous voyez, donc trois éléments, trois ingrédients qui doivent être associés. Alors, suivant les ironies, on va avoir plutôt telle ou plutôt telle autre, mais en principe, on a analysé une étudiante, Élodie Bakhlouti, que tu connais peut-être, Hugues, finit sa thèse sur l'ironie, sur la définition de l'ironie, donc là, grand corpus maintenant, énorme. Voilà. Donc, l'ironie donc ce serait un énoncé dialogique dont le dialogisme tiendrait spécifiquement à l'assemblage de ces trois éléments. Alors, tout de suite, bien sûr, il faut essayer de voir les trucs, ça marche pas. là qui est intéressant. Les trucs, ça marche pas. Alors, les trucs où ça marche pas. Alors, l'exemple 17, il marche bien, donc je passe parce que je veux pas. Là, c'est un exemple 17, oui, très récemment. Bon, vous verrez, ça marche très bien. Là. L'exemple 18, on va passer. Ce matin, je discutais sur l'exemple 19. On va prendre l'exemple 19. On va finir par là. L'exemple 19, donc, c'est un exemple de relevé sur la messagerie Internet. Alors, c'est il y a 6 mois ou un an à peu près. Messagerie, liste de sciences du langage. D'ailleurs, vous avez peut-être reçu, les collègues qui sont en sciences du langage, vous avez peut-être reçu ce mail. Hein. Une collègue, alors j'ai mis Julie Gay, bien sûr que les noms sont changés, etc., fait suivre un appel à com. Il y a fréquemment, hein, sur linguististe ou autre chose, je ne sais plus quel. L'affaire DSK, une approche multiculturelle de l'expression des émotions. Donc, la collègue fait circuler cet appel à communication, etc. Réponse d'André H. J'ai aussi changé les noms. Pour bien comprendre, générativiste, pur beurre. Hein, donc, réponse. Merci Julie, je suis sûr que ce message et son contenu permettra à nouveau de faire avancer la linguistique. Ironie, hein, on comprend en plus quand on sait que la personne donc, est un générativiste dur, pur porc. Hein, donc, on comprend bien que là, c'est ironique, antiphrastique. Là, l'antiphrase marche bien. Alors, ce matin, je discutais avec cette étudiante, cette doctorante, je lui disais, oui, mais là, est-ce qu'on peut, je vais tendre un piège un petit peu pour voir, comment tu analyserais cela dans le cadre de l'approche dialogique, est-ce qu'il y a un discours qui est ridiculisé, etc. Et elle a bien répondu, je trouve. Elle a très bien répondu, alors je vais vous donner sa réponse, en gros, vous me direz si c'est bien répondu. Elle m'a dit, non, ouais, c'est bien, on y vient dans le cadre dialogique, parce que dans ce cadre-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réponse d'André H. Merci Julie, je suis sûr que ce message, etc. Antiphrastique, etc. Il ridiculise, ironise sur le discours implicite. Et c'est là que Carabra me dit, Catherine me dit, ouais, mais d'accord, vous mettez de l'imbécile, c'est un peu facile. Mais quand même, sur le discours implicite, quand Julie, comme quelqu'un d'autre, fait circuler un appel à com, c'est penser que cet appel à com, il est valable. Que finalement, pour les sciences du langage, c'est quelque chose. Donc, me disait Elodie ce matin, hein, l'ironie ici tiendrait à ce que ce qui est ironisé, c'est le discours implicite qui est partagé par le fait que quand on reçoit ce genre de message, et alors elle est allée chercher dans ses... Et elle avait une occurrence où quelqu'un avait fait circuler un message, enfin, un appel à com en disant « Je pense que ça vous intéressera, que ça intéressera beaucoup de monde, etc. » Donc, si vous voulez, on pourrait peut-être sauver ou noyer, je ne sais pas, l'ironie en tant que cocktail dialogique, en disant que même dans des exemples de ce type, peut-être, il y a un discours ironisé, même si ce discours, il est tellement implicite qu'on peut dire peut-être qu'il n'existe pas, qu'il n'y est pas. On ne sait pas, à voir. Donc. Alors, c'est une vaste question. Hein, c'est une vaste question, à savoir, y a-t-il des ironies antiphrastiques dans lesquelles il n'y aurait pas d'interaction avec un discours antérieur? Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. J'aime bien de temps en temps pousser, voir jusqu'où une hypothèse peut aller. Elle tient assez bien la route. Hein, et malgré tout, il y a quelques cas. Je sais que Catherine m'avait passé des trucs de l'interaction, enfin de l'entre-deux-tours entre Ségolène et puis Ségolène Royal et puis Nicolas Sarkozy, où il y avait des cas. Mais bon, c'était quand même possible. Alors, pour en terminer là, oula, je viens de dépasser, je finis. Cocktail. Tout en sachant que le discours donc qui est ironisé, le discours avec lequel il y a interaction, ça peut être manifeste, hein, comme dans les exemples 2, ou etc., ou de façon beaucoup plus implicite, de façon inférentielle parfois, en même temps, il nous semble, je dis il nous, parce que là c'est la thèse de Elodie Baglotti, que malgré tout, il y aurait toujours du discours derrière. Voilà. Je vous remercie.